l'occasion de ce, du culte d'offrande que nous avons aujourd'hui, que les réseaux sociaux ont parlé, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui un culte d'offrande, et puis quelqu'un a mis une petite boîte, là, marqué offrande sur la table à côté de moi. En raison de ce culte d'offrande, on va laisser Néhémie à ses murailles, et on va rejoindre Pierre, sans jeu de mots, muraille, Pierre, au chapitre 3 de sa première lettre. Une lettre qu'il adresse aux chrétiens de l'Asie mineure qui sont dans la dispersion, la diaspora chrétienne dans l'Empire romain. Et il va leur dire « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, mais écoutez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés. Afin de recevoir vous-même la bénédiction, car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles. Et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix avec ténacité. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, ils tendent l'oreille à leur prière, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même si vous arrivez de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas tomber. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si donc vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découvrent de votre consécration au Christ, auront à rougir de la calomnie. Bien, il vaut mieux souffrir en faisant le bien. Vous ne vous en souvenez certainement pas, mais en 1986, la Belgique a gagné l'Eurovision. Pour la première fois de l'histoire du concours, la Belgique a gagné l'Eurovision. Elle a conjuré le mauvais sort qui planait sur elle. Belgium, one point. Alors, parce que tous les pays, par pitié, devaient être juste un point à la Belgique. Elle ne gagnait jamais. Mais en 1986, une jeune liégeoise, que Georgette connaissait très bien, puisqu'elle vient de la même ville qu'elle, Liège, qui s'appelait Sandra Kim, a chanté une chanson qui s'appelait J'aime la vie. J'aime la vie. Et tous les pays, même l'Union soviétique à l'époque, ont donné 10 points à Sandra Kim et la Belgique, pour son titre « J'aime la vie » parce que tout le monde aime la vie. Tout le monde, en tout cas, veut aimer la vie. Et ça m'a rappelé, je ne sais pas qui m'a fait rappeler quoi, mais le verset 10 du chapitre 3 de 1 Pierre, qui nous dit « Qui veut aimer la vie et voir des jours heureux ?» Ah oui, moi je veux aimer la vie. J'aime la vie. Et il va ajouter qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien. Celui qui veut aimer la vie, qu'il fasse le bien. Alors cela paraît facile, mais quand on connaît le contexte de la diaspora, ce n'est peut-être pas aussi facile que cela. Donc pour rappel, on est au 1er siècle après Jésus-Christ, dans l'Empire romain, dans un contexte tout à fait hostile aux chrétiens, qui sont dispersés dans cet empire romain et qui sont au mieux considérés comme quantité négligeable et au pire soupçonnés d'être des rebelles ou des troubles à l'ordre public. Cet ordre public qui veut que tout le monde s'agenouille devant l'empereur. Et dans ce contexte de témoignage au milieu hostile, Pierre, dans sa première lettre, va encourager les chrétiens. Et cet encouragement va parfois prendre des tournures un peu bizarres. Je résume les deux premiers chapitres de la première de Pierre. Il va commencer par un encouragement à garder l'espérance, cette espérance qui est celle des chrétiens pour un héritage incorruptible et qui nous est réservé et gardé dans les cieux. Et là, on se dit, c'est un encouragement normal qui nous fait du bien. Mais il continue un encouragement à maintenir la joie malgré les épreuves. 1 Pierre 1, chapitre 1. Et là, ça commence à être un peu plus délicat comme encouragement, à garder la joie pendant malgré les épreuves. Il nous invite après à encourager à mener une vie de sainteté et une vie de service et de sacerdoce universel, 1 Pierre 2. Alors là, c'est quand même beaucoup de monde. Un milieu hostile, avoir une vie de service. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, il nous invite au chapitre 2 aussi, comme encouragement, à mener une vie de soumission. Alors là, Pierre exagère intentionnellement. Mais comme si cela ne suffisait pas, celui sur le gâteau, il va les encourager et nous encourager par la même occasion à faire le bien. À tous ces chrétiens qui sont dans la dispersion, dans la diaspora chrétienne, au milieu hostile. Et il le répète plusieurs fois, vous l'avez entendu à la lecture, 6 fois le mot bien dans ces quelques versets. Et pour nous montrer qu'il ne tourne pas autour du pot, il va ajouter au verset 13, il va parler d'un zèle à pratiquer le bien. Ayez du zèle à pratiquer le bien. Et le mot zélé est bien connu à l'époque, puisque les zélotes sont des gens zélés, mais pour l'identité nationale, pour du nationalisme, les zélotes, c'est un groupe d'hommes prêts à tout sacrifier pour la cause de la patrie, de la nation. Et bien Pierre va utiliser ce mot très très fort, zélote, pour parler de l'encouragement à la cause du bien. On pourrait parler d'un encouragement à la poursuite agressive du bien, pas de mollesse dans la pratique du bien, selon des zélotes dans la pratique du bien. Et on remarque que Pierre n'est pas dans l'encouragement à se faire du bien, comme on l'entend un petit peu partout. Faites-vous plaisir. C'est tellement important de faire plaisir aux bouddhistes ou les coachs de bien-être personnel. Mais Pierre nous parle non de se faire du bien, mais de faire le bien, de pratiquer le bien. Et cet encouragement n'est pas anodin. Car tout autour de nous semble nous dire une seule chose, c'est que la pratique du bien ne paye pas, ne paye pas. Faire le bien, ça ne donne rien. Il y a, ça fait 15 ans, Yvonne, à l'Intermarché d'Orléans, nous sommes restés dans cette nuit, dans les premières semaines de notre séjour là-bas, elle était à la caisse et elle veut aider une dame âgée à mettre ses bouteilles d'eau, vous savez, les de 6 bouteilles, dans son chariot, du chariot au plateau, je ne sais pas. Eh bien, Yvonne s'appelle à faire, elle avait absurdément. Elle lui dit, vous voulez me voler ? Alors, il est évident qu'Yvonne avait l'intention de voler la flotte de sa tête. Elle a fait ça toute seule. Mais c'était assez symptomatique de la société. Et un peu plus loin, les membres du personnel d'Intermarché ont fait cette réflexion, je cite, et voilà, tu fais une BA et on te tape sur les doigts. Celui qui veut faire le bien ne reçoit rien en retour, semble-t-il. Et même à l'inverse, on a des gens qui pratiquent le mal et qui semblent réussir. Et à qui tout réussit, et c'est la réflexion d'un psalmiste, moins connu que David et Salomon, mais il s'appelle Asaph, et qui dit dans le psaume 73, « Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus et je tombais. Je déjeune des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants. Car ils ont le tourment jusqu'à la mort, ils ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes, ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Ceux qui font le mal sans réussir, ils s'en évanouissent de peu que Asaph, le pied d'Asaph, ne trébuche dans sa foi. Le tout est permis, ils s'en évanouissent que son pied trébuche, mais Asaph, c'est, on le voit à la fin de ce psaume, s'est ressaisi, il a vu que le véritable bonheur se trouvait autre part. Et Pierre, dans son épître, balaye aussi nos réticences naturelles à l'égard de la pratique du bien qui ne paie pas, Et il va dire au contraire, faire le bien, c'est justement aimer la vie. Que celui qui veut voir des jours heureux fasse le bien, pratique le bien. Celui qui veut toucher au bonheur, eh bien, qu'il fasse le bien. La pratique du bien serait, semble-t-il, la clé du bonheur. Et la Bible, parole de Dieu, dit, oui, trois fois oui, il ne s'agit pas non plus de trop spiritualiser les termes de vie et de jours heureux qu'il y a dans le texte de la prière, en disant des jours heureux, oui, à la fin des temps, hein, quand Jésus reviendra et qu'il nous emmènera au ciel, on sera vraiment bien, non. Pour Pierre et pour les chrétiens de l'époque, les promesses sont pour maintenant. Les jours heureux, pour ceux qui pratiquent le bien, c'est pour maintenant. Même si il ne faut pas évacuer la pleine réalisation, encore à venir, les promesses sont à vivre maintenant. Le bonheur pour la pratique, pour ceux qui pratiquent le bien. Et dans le livre des Proverbes, il y a un verset absolument magnifique, Proverbes 9. Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi. Et une autre version écrit, l'homme bienveillant fait du bien à son âme. L'homme qui pratique le bien fait du bien à son âme. L'homme qui veille sur sa pratique du bien nourrit son âme, son jardin intérieur. Alors quand j'ai dit ça à l'étude biblique que je donnais à part à l'implantation de l'arbre, il y a un médecin qui était là et qui a dit, mais c'est évident que celui qui pratique du bien s'en fait lui-même. Il pratique le bien s'en fait lui-même. C'est scientifiquement prouvé. Et je suis allé voir sur Internet un article, un site de psychologie, et il y avait un article qui s'intitulait « 7 bonnes raisons pour faire du bien ou pour se faire du bien ». Et il disait « Faire preuve de gentillesse est bon pour la santé psychique et physique ». Des études et des observations scientifiques. 1. Faire du bien, ça rend heureux. 2. Ça renforce le système immunitaire. 3. Ça soulage la douleur. 4. Ça nous donne du plaisir. 5. Ça améliore les performances chez les autres. 6. C'est motivant. 7. Contagieux. Faire du bien, c'est contagieux. Alors on est content d'apprendre la psychologie. C'est intéressant. En fait, la Bible le dit depuis des millénaires. Faire le bien, c'est centré en soi. Un commentateur écrivait, c'est celui qui agit qui est le plus affecté par ce qu'il fait. C'est celui qui agit qui est le plus affecté par ce qu'il fait. Et la gentillesse affecte celui qui la manifeste. Je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Mais je voudrais faire une remarque préliminaire. Ce n'est pas une histoire où je cherche à me vanter, pas du tout, ni à me glorifier, pas du tout. Donc voilà, ceci étant dit, je raconte l'histoire. En 2001, nous étions encore à Bruxelles. Et je sors de chez moi pour la banque, ou je ne sais plus. Mais là, il y a deux dames maghrébines qui me demandent de l'aide pour un pneu éclaté. Et je vois effectivement leur voiture avec un pneu éclaté. Et je regarde un peu, puis on me dit ce qu'il y a de Et tout d'un coup, une idée me vient, je vais leur prêter ma voiture. Une Peugeot 205 Junior avec les sièges en jean et les bandes de la mélange. Et elle me prise, donnez les clés, elles sont parties. Et elles me l'ont ramené. Et je dois dire que j'étais tellement heureux d'avoir eu une si belle idée. Et une idée qui ne m'est pas naturelle. Je suis dans la fable de la sirène et la fourmi. Plutôt la fourmi, pas franchement prêteuse, ne me demandez pas ma bagnole, c'est bon. Je prête difficilement, ma famille peut me dire, mais je ressentais comme une quiétude dans le bien-être, dans mon être intérieur. Et ce n'était pas l'impression d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire, mais d'avoir fait quelque chose de Mais ça m'a fait du bien de faire quelque chose de bien. D'autant qu'une heure après, la voiture est revenue quand même. Et pour le rendre les clés et la voiture, avec une bouteille de champagne. Mais je n'avais pas besoin de la bouteille de champagne pour sentir les bulles. Alors pourquoi ressentons-nous du bien ou ce bien-être quand nous faisons le bien? Est-ce que c'est parce que nous recevons une décharge d'endorphines sécrétées par notre glande hypophyse et hypothalamus? Ça pourrait être la raison physiologique, mais il y a une explication d'ordre spirituel. Si faire le bien nous fait du bien, c'est parce que nous sommes faits à l'image de Dieu qui par nature est bon et la bonté personnifiée et le bien personnifié, et quand nous le pratiquons, nous ressentons comme une adéquation avec ce que nous sommes réellement, des hommes et des femmes, à l'image de Dieu, le souverain bien. Ce Dieu du bien qui pratique le bien de toute éternité et qui pratique le bien jusqu'à donner son Fils unique par amour pour nous. Donner son Fils unique pour notre bien. Un Dieu qui pratique le bien depuis toujours et qui le fera jusque dans l'éternité. Et quand nous faisons le bien, Dieu qui s'y connaît en bien sourit et se dit, c'est exactement ce que j'espérais que tu fasses. Et nous sentons ce sourire de Dieu sur nous, cette connivence, nous sentons cette participation à la nature de Dieu. Et nous sourions aussi, parce que nous sentons ce sourire de Dieu sur nous, c'est comme un soleil qui se lève sur notre existence. Écoutez cette parole d'Ésaïe absolument incroyable. Si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira sur toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Quelle promesse pour ceux qui veulent s'engager dans la pratique du bien. Si tu pratiques le bien, tu vas marcher dans la lumière. Dans la lumière de Dieu. Et le Nouveau Testament rajoute que nous avons été préparés pour cela. C'est quelque part inscrit dans nos gènes, dans nos sapiens et chrétiens en plus. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, afin qu'il a préparé à l'avance afin que nous les pratiquions. Ils sont destinés à la pratique du bien. Et ainsi, quand nous faisons le bien au quotidien, nous remplissons l'objectif de notre existence. Quand nous faisons le bien, nous sommes pile poil là où nous devons être. Nous saisissons notre destinée en tant qu'être humain. Et quand nous parlons, me semble-t-il, d'adéquation par rapport à notre destinée, il me semble qu'on touche, qu'on s'approche de la notion de bonheur. Alors qu'est-ce que le bonheur? On sait bien que ce n'est pas la satisfaction de tous nos besoins ou la jouissance de tous les biens matériels. On sait bien que ce n'est pas ça. Mais par contre, on sent bien que ça peut être l'adéquation, se sentir en adéquation avec ce que nous sommes destinés à être. Cette impression diffuse mais claire à la fois, cette conviction qu'on est là où on devait être dans la pratique du bien. Il y a comme un retour, oui, à la pratique du bien, pas toujours une bouteille de champagne à la clé, ça serait, mais certainement, bien souvent, une bulle dans notre âme, du pétillant dans notre intérieur, et ça jusque dans la vie éternelle. Et les destinataires de la lettre de Pierre avaient besoin d'entendre cela. Parce que dans leur contexte, la pratique du bien n'avait pas de soi. Dans leur contexte, et peut-être dans le nôtre également. Ils sont dans un contexte de souffrance assez extrême, et ils vivent même, je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure à la lecture, mais dans une situation particulièrement injuste. Ils souffrent, alors qu'ils pratiquent le bien. Ça, c'est le comble. Ne rien recevoir de retour ou en retour quand on pratique le bien, c'est courant, c'est une chose assez normale. L'ingratitude, c'est ok. Mais recevoir de la souffrance alors que l'on pratique le bien, ça c'est difficile. Ça c'est compliqué. Et c'est ce qu'ils vivent là. Ils souffrent en faisant le bien. Les pionniers les encouragent à ne pas se lasser, à ne pas tomber dans la lassitude de la pratique du bien. Nous avons certainement aussi de la lassitude pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce que nous ne voyons aucune bonne raison de pratiquer le bien. Peut-être parce que nous connaissons en cette fin d'année, nous ignorons, les plus vieuses depuis 2-3 semaines, une petite ou une grande baisse de régime dans notre motivation à pratiquer le bien. Eh bien, Pierre, nous encourage à ne pas nous lasser et à rester serrés pour la pratique du bien. Et Paul le fait également, 2 Thessaloniciens 3:13, ne vous lassez pas de faire le bien. Et Galates 6, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au moment. Et si Pierre et Paul pensent devoir encourager les personnes à faire le bien, c'est bien parce que si même cela est inscrit dans la nature même de Dieu et dans notre image de Dieu en nous, cela ne nous est pourtant pas naturel et le contexte est toujours compliqué par rapport à ça. Parce qu'on pourrait perdre le courage quand les vents semblent le contraire, quand la voie la plus facile serait de ne pas le faire, le bien. Quand l'adversaire du bien, le Satan, nous susurre à l'oreille de nous laisser aller. Quand de l'intensité de la tâche, devant le mal dans ce monde, le mal abonde, oui, nous pourrions nous décourager de pratiquer le bien. Mais bien, on nous rappelle que c'est bonheur de pratiquer le bien. En tant qu'être créé à l'image de Dieu, une image qui est ternie par le péché, c'est-à-dire ce désir insensé de vivre indépendamment de Dieu, le souverain bien, mais qui est renouvelé cette image, renouvelée en Jésus-Christ, qui, à sa mort et sa résurrection, est devenu vainqueur du mal par le bien. Mais on connaît le chant. En lui, nous sommes transformés de gloire en gloire, et notre vie peut dire son histoire, l'histoire de Jésus, l'histoire d'un homme de bien, brille sur moi. Que cette lumière du Christ qui pratique le bien jusqu'au bout, jusqu'à la croix, puisse luire sur moi. Alors la pratique du bien peut prendre différentes formes, mais elle se doit d'être très pratique. Alors il y aura des pratiques plus élaborées, organisées, comme entrer dans une association, j'avais faim, ou apprendre ensemble, ou soutenir une mission, de sel, des parrainages d'enfants, ou Amel, des parrainages d'enfants aussi, ou Portes ouvertes, la mission pour l'Église persécutée. Ça pourrait aussi être soutenir l'Église, qui veut être partie prenante dans la pratique du bien dans ce monde que Dieu aime. Ça pourrait être des gestes simples et spontanés, ça pourrait être encourager un enfant, faire un cadeau à quelqu'un, offrir son sourire, offrir ses services, parler à une dame âgée, soigner quelqu'un, prier pour quelqu'un, écouter quelqu'un, éviter une colère, ne pas être raciste, relever les choses positives, ne pas critiquer, inviter quelqu'un chez soi, dire un mot sympa. Qu'importe le flacon du bien, pourvu qu'on n'ait pas la maîtresse, mais le bonheur de vivre. De faire le bien. Comme la pub pour les motos Suzuki, les motards savent peut-être de quoi je parle, ou la vie à, ou le surf pour les gens de la côte basque ou côte landaise, que la pratique du bien devienne notre way of life. Parce que le surf, c'est pas juste un sport, c'est un way of life. La Suzuki, c'est pas juste une moto, c'est un way of life. mais que la pratique du bien devienne le way, la manière de vivre, le way of life. Nous pourrons les questions chrétiennes, nous qui avons été faits à l'image de Dieu selon la Bible. Il faut persévérer, chers amis, dans la pratique du bien, parce qu'il y a de beaux jours, parce qu'il y a des jours heureux qui attendent ceux et celles qui s'engagent résolument dans cette façon de vivre, dans cette manière de vivre. Il y a des jours ensoleillés, sous le soleil de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière de notre attitude. Et nous pourrions dire alors comme Asaph, vous savez, le psaume 23, celui qui a failli, dont le pied a failli trébucher, alors qu'il voyait le succès du mal autour de lui, nous pourrons dire comme lui, après avoir médité la parole, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Et je vous invite aux musiciens à s'approcher.